C'est l'heure de l'invité culture sur France Culture. Il est 7h11. Depuis Site 2, son premier film qui date de 1989, jusqu'au Tombeau sans nom, son dernier, présenté à la Mostra de Venise en août dernier et qu'on pourra voir bientôt sur Arte, que l'on pense aux gens de la Rizière, à Un soir après la guerre, à S21, la machine de mort Khmer Rouge, à La terre des Amérantes, à Deutsch, le maître des forges de l'enfer ou à L'image manquante. Son cinéma a toujours enregistré et questionné la mémoire du génocide cambodgien qui a coûté la vie à quelques 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Sur la douleur des surveillés vivants et sur l'exil, voilà ce dont parlent ces films. Il est l'invité ce week-end des Journées internationales du film sur l'art à l'Auditorium du Louvre à Paris. Et cet auditorium a projeté hier soir en avant-première Les Tombeaux sans nom. Bonjour Etipane.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Je parlais de l'accordéon, puis vous écoutiez Félicien Brut jouer. Je disais que l'accordéon, c'était un instrument qui avait voyagé dans le monde entier. Est-ce qu'il est allé jusqu'au Cambodge?
Oui, il y a des jeunes gens qui pratiquent l'accordéon, oui.
Depuis longtemps, ça fait partie de la culture cambodgienne. Vous dites des jeunes gens, c'est nouveau.
C'est assez nouveau, mais quand j'étais petit, en très jeune classe, quoi.
L'équivalent de notre primaire.
Oui, même plutôt jardin d'enfants.
De maternelle, oui, la crèche. on remonte.
Ouais. Je me souviens, on devait jouer dans la télé, dans la télévision, et que on sait pas jouer, on doit faire tout, et on doit faire les mouvements avec les mains, quoi.
D'accord. Ouais. De ce piano à bretelles, voilà. Qui est donc l'accordéon. Bon, voilà, il y allait aussi jusqu'en Cambodge. Je disais, Etipane, que hier soir, le Louvre a projeté en avant-première. Votre dernier et nouveau film, Les Tombeaux sans nom, ça s'est pas bien passé cette projection hier soir?
Très bien, très bien. D'abord, là, je suis très content que le musée du Louvre considère ce film, prend quatre de mes films. Parce que souvent, quand on prend un angle de travail comme on travaille sur un crime de masse ou un crime de génocide, on est très vite étiqueté comme un cinéaste de génocide, quoi, un cinéaste comme un rouge, etc. Mais là, un musée prend comme une œuvre d'art, comme une œuvre cinématographique. Je crois que ça me fait énormément plaisir, parce que ça y est, on voit autre chose que le côté Khmer Rouge, génocide, etc.
Parce que c'est quand même là, hein.
Oui, quand même là.
C'est aussi là.
Oui, c'est aussi là. Mais
ce n'est pas que cela, voilà. C'est aussi d'un film.
Mais chaque film, c'est une portée au-delà de ça. Le dernier film s'interroge sur l'absence du corps, sur comment faire le deuil. Est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un tombeau aussi? Est-ce qu'un film, ça peut être un stèle pour ces disparus? Donc, il y a beaucoup plus d'interrogations par le côté formel et par le contenu aussi, qui va au-delà de questionnements sur le génocide, sur le mal et le bien et tout ça.
Absolument, et puis le film convoque aussi d'autres types, d'autres formes d'art. De fait, depuis... il y a L'image manquante, hein, oui. où vous filmiez des sculpteurs fabriquant des figurines de glaise, représentant des personnes de votre famille qui ont disparu, Etipane. Et puis Les Tombeaux sans nom, où c'est pareil, on voit des figurines, des sculptures, des masques flotter dans l'eau. Quel est le rôle des autres formes d'art dans votre film? Comment les utilisez-vous, ces autres formes artistiques?
Moi, j'intègre tout. Tout ce qui est possible, que ce soit même la musique, pour moi, c'est une forme qui y a des documentaristes qui refusent de mettre la musique, par exemple. Moi, j'utilise tout, la peinture, la musique, la sculpture, tout ce qui est possible pour moi d'intégrer qui me permet de travailler sur la question de représentation. C'est très difficile de filmer l'absence, vous voyez. Sinon, on bascule tout de suite dans la facilité, dans le voyeurisme. On peut, dans la mise en scène je me souviens toujours de gens qui étaient filmés par Spielberg dans La Chambre à gaz, dans La Liste Schindler. Voilà, quand on va trop loin, on est voyeur, on est presque indécence. Donc, comment doser, comment faire sentir l'absence, comment sentir aussi la tragédie, la résistance aussi. Il y a Claude Lanzmann qui fait ça parfaitement bien, pour le choix. en n'utilisant pas d'archives et tout ça, non seulement la parole, le travail sur la parole. Et voilà, moi j'ai choisi un d'autres procédés,
oui.
Voilà, et de tout utiliser.
Avec les décors, avec des accessoires, ouais, avec la
maquettes,
peinture, avec des maquettes. Ouais. Donc comme une solution cinématographique au problème de la représentation.
Oui, comme une solution, c'est comme... Vous voyez un masque dans le musée en France, c'est une œuvre d'art. Mais un masque chez nous, il y a une âme derrière, dans notre contexte à nous. Chez nous, un Bouddha, ce n'est pas un morceau de pierre, c'est un esprit qui habite. Mais un Bouddha dans le musée Guimet, c'est un art du 13e siècle, 12e siècle, 11e siècle. Bon, les gens admirent l'art. L'art, il traverse les mers, il traverse les distances. Mais j'ai l'impression que l'esprit n'est pas là. Donc, quand on utilise les masques, par exemple, dans le tombeau sans nom, ou les drapeaux, le drapeau de l'âme, il y en a qui me disent, ça fait penser au film de Kurosawa, Ran. En fait, nous, c'est représenter les âmes. Donc, si à force de... Ça dépend de la manière dont vous filmez, mais au bout de 3-4 plans, le drapeau qui flotte, ça prend une forme humaine. Oui, ça dépend.
Vous citez Kurosawa, qui était donc un cinéaste, oui. Mais on peut penser justement à d'autres formes d'art, en vous entendant parler, puis en regardant vos films, Rétipane, à d'autres artistes aussi. On peut aussi penser à des artistes avec qui vous pouvez discuter, ça vous est déjà arrivé de le faire, et ça va vous arriver donc pas plus tard que lundi, je crois, dans le cadre de cette invitation aux Journées internationales du film sur l'art à l'Auditorium du Louvre, puisque sera projeté votre film Exil, suivi d'une masterclass, puis d'une discussion avec l'artiste Christian Boltanski. Vous avez des points communs avec lui ?
Avec Christian, j'ai rencontré Christian quelques années déjà. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire quelque chose. Et quand je suis arrivé dans son atelier, je voyais des âmes partout. J'étais étonnant. J'ai une présence partout. Pourtant, il est super bien rangé, son atelier. C'est pas comme dans mon bureau. Et après, je dis, Christian, j'aimerais faire un film chez toi. Mais j'emmène toute mon équipe. Personne ne comprend le français. Donc, le seul, peut-être, avec qui on peut s'entendre, c'est les âmes. Et je le vois partout, je sens. Puis on était, ouais, il n'était pas opposé à ça. Hein. Puis on n'a jamais fait le film, on s'est vu depuis régulièrement, de temps en temps. Et moi, j'aime bien quand je fais un film, j'aime bien faire intervenir les gens comme des anthropologues, comme les historiens ou les artistes d'art plastique pour juste confronter les manières de faire, discuter les manières de faire. Est-ce que certaines sensibilités se rejoignent ou pas? Et c'est vraiment enrichissant. Hier, j'ai fait avec un historien et un anthropologue. C'est remarquable la façon dont ils décryptent les films. Et ça m'apporte énormément.
Allez, on va l'écouter, Christian Boltanski. On plonge dans le passé, c'était en 1974, c'est une archive INA, sur l'ORTF.
Je crois que toute une partie de la peinture a toujours été une reconstitution, ou du moins un désir de reconstituer. Avec forcément tous les échecs qui sont attachés à cela. Mes reconstitutions ne sont pas réussies, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu retrouver les objets que je recherchais. Mais finalement, peut-être, je le savais dès le départ. Je savais qu'il n'était pas possible de retrouver tel objet gravé dans ma mémoire, mais disparu depuis des années. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette recherche désespérée d'arrêter un temps ou de retrouver quelque chose qui est mort. Et pour moi, la peinture, du moins mon activité actuelle, c'est cette sorte d'échec assuré et ce désir qu'on a et qu'ont eu toujours tous les peintres d'arriver à capter un morceau de réalité pour l'empêcher de mourir en partie.
Rétipane, ça vous ressemble ce que dit Christian Boltanski là?
Oui, c'est quelque chose qui nous... C'est une de nos préoccupations communes. Quoi. En fait, ceux qui vivent portent le témoignage de ceux qui sont morts. Quoi. Donc, et on a parfois, comme dans le tombeau sans nom, vous savez, il y a des gens qui disparaissent dans ma famille, mes amis ou les gens que je connais dans le village. 40 ans plus tard, évidemment, je pense qu'ils sont morts. Mais comme ils sont disparus, comme il n'y a pas de sépulture, comme il n'y a pas de tombe, de tombeaux, tout ça. Alors, il reste toujours un grain d'espoir tout petit qui sont encore vivants. Et à partir du moment où ce petit espoir de rien du tout, et on les attend, mais en même temps, je sais qu'ils sont morts. Mais donc, le deuil, il n'est pas facile à faire. Donc, l'œuvre d'art peut intervenir c'est au vivant de raconter, en fait, la mémoire. Ce fameux devoir de mémoire, ça, j'y crois pas. C'est un terme que je n'utilise pas. Mais c'est porter cette mémoire, d'en parler, de le faire dans le travail quotidien, de le construire presque un stèle ou un faire quelque chose que les gens peut regarder, sentir, progresser et redevenir, comment dire, regagner même leur dignité, quoi, leur liberté, leur dignité. Si vous ne faites pas, c'est une pièce manquante. Hein. Cette pièce manquante, c'est cette personne, on ne sait pas si elle est morte ou elle est vivante et qu'elle ne revienne pas, et ce sera un trou qui ne disparaisse pas avec le temps.
C'est un peu comme vous parlez de reconstitution, comme Christian Boltanski, et on pourrait presque voir cela aussi comme la reconstitution d'un puzzle entier de votre vie, de votre famille, par morceaux, les morceaux du puzzle étant les films que vous faites, un peu comme faisait l'écrivain israélien Aaron Appelfeld avec ses livres, qui reconstituait par segments, par petits bouts, et puis l'ensemble de l'œuvre formait peut-être l'ensemble de sa vie, d'une certaine façon. Progresser de la même façon?
Oui, mais peut-être en désordre au début, mais maintenant, si on met mes films bout à bout, on arrive à comprendre mon désir de départ. Mais vous savez, comme le tombeau sans nom, j'avais envie de ce film depuis plus de 10 ans déjà, mais je ne savais pas comment aborder, comment le construire, comment. Alors tous les ans, je suis allé dans ce village où ma famille était déportée, mais je n'ose même pas faire un pas vers la forêt, vers la rizière où les morts sont enterrés. J'arrivais pas. Je m'arrête toujours à l'orée des rizières, à l'orée des forêts. Tout en sachant pertinemment que dans ces forêts, derrière ces arbres, il y a eu des morts, dont les esprits errent par-ci et par-là.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à franchir le pas cette fois?
Et je sais pas, je trouve une manière, j'étais prêt, j'avais l'idée de peut-être dialoguer avec les âmes. Quand je dis ça, ne croyez pas que je parle qu'aux morts, je parle aux vivants aussi.
La preuve. Les gens qui vous écoutent sont
voilà,
bien vivants.
Voilà, rassurez-vous, je parle aux vivants aussi. J'essaie de rentrer dans ce paysage qui est, je crois que les crimes de masse modifient aussi les paysages, modifient la terre, la face même de la terre, et qu'il faut, y aller avec beaucoup de foi, beaucoup de générosité, beaucoup de naïveté aussi. Et voilà, j'ai trouvé les intermédiaires, comme les médianes, ceux qui ont le don naturel de parler avec des âmes. Donc, j'ai utilisé ces moyens-là, j'ai utilisé tous les moyens que le bouddhisme animisme permet. Donc, c'est comme si j'étais mort déjà une fois, vous voyez. Donc, on fait une cérémonie qui marque ma mort. Et puis, je renaisse. Et là, à partir de ce moment-là, je peux aller chercher les âmes. Ça a l'air très anthropologique, très ethnographique, mais
c'est pas. Oui, archéologique aussi.
Mais c'est pas comme ça, hein. C'est beaucoup plus. Vous êtes rentré très vite avec les gens. C'est pas du tout en observation, quoi.
Disons que j'étais mort. Oui, mort. Je baissais les yeux comme à 13 ans. J'avais déjà vu bien des choses que nul ne devrait connaître. Mes mains et mes pieds étaient noirs de poussière ou de cendres dispersées. La mort est un vent qui repose parfois avec une telle douceur. Disons que j'étais mort et j'ai pensé renaître sans y croire, c'est vrai. J'ai pensé rire. J'ai voulu être léger, embrasser l'enfant de l'enfance. Or, il n'y avait que poussière de vent. Il en faut des années pour se perdre. Des nuits, des jours, des larmes, des mots. Et jusqu'à l'oubli du mot douleur, il en faut. Et pour ne pas renaître.
Les tombeaux sans nom, Rétipane, commencent par ces mots écrits avec Christophe Bataille, dits par Randall Duke. Ces mots d'une très grande poésie. Le texte est très long, hein, on n'a pris qu'un extrait assez court. Ces mots d'une grande poésie. La poésie est une autre forme artistique que vous utilisez beaucoup et depuis de nombreux films. Et ça commence par une cérémonie, précisément, des morts, où on vous voit, on vous reconnaît pas, mais on le sait, on vous voit vous faire raser la tête par un bonze. C'est une cérémonie des morts où les bonzes scandent votre nom pour éloigner les souffrances, faire revenir les quelques 19 âmes errantes de votre famille et souhaiter votre bonheur. C'est vraiment un film qui est ancré dans la vie intime et dans cette quête à la fois personnelle et collective, c'est vraiment le cœur de ce film.
Ouais, parce que moi, quand je fais des films, les gens de ma génération, ils m'engueulent beaucoup.
Ah bon?
Oui, parce qu'ils disent, voilà, ils n'ont pas envie d'entendre ça encore. Ils ont assez souffert et ils ont tout à fait raison. Mais en même temps, ils viennent m'engueuler, puis ils achètent des tickets, puis ils rentrent voir le film.
Ah bah, tant mieux, ça marche alors.
Vous faites du mal. C'était comme ça. Il y a un monsieur qui, amicalement, est venu me voir. Mais, et puis, vous avez beaucoup de jeunes qui commencent à s'approprier le film. Et j'étais vraiment été touché par une jeune fille, une beau jeune qui a fait École des Arts, je pense. Elle est venue avec un rouleau de papier assez grand. Puis elle me dit, ouais, je voulais montrer l'histoire que ma mère me raconte. Puis elle tire le rouleau, puis il y a l'image et le texte, comme on tire le rouleau de sa vie, quoi. Long comme ça, il y a la naissance de la mère, le village, jusqu'au la période Khmer Rouge, et ça s'arrête là. Elle dit, j'arrive pas encore. Je vais continuer, mais ça y est, je suis arrivé à la rizière avec les Khmer Rouges. Et puis, elle réenroule. Et voilà, l'œuvre d'art, c'est comme ça. C'est une manière de dérouler, et vous pouvez après enrouler après, mettre dans un coin. Mais vous connaissez votre histoire. Et je trouve que cette jeune fille est, j'étais très très touché par son travail, quoi. Mais avec une écriture tout petit, des dessins, c'est très expressif. Et voilà, il est venu de ne sais pas où avec ses rouleaux, il regarde le film pendant 2 heures et puis pour juste montrer comment le travail d'art, le travail de création de films qui se transmettent à l'écriture, se transmettent aussi à la peinture, et ça la libère. Ce rouleau reconstitue son identité, son parcours, sa vie, relie elle à sa mère et à ses grands-parents. Et c'est ça, la fonction de l'art, c'est ça aussi. Hein. C'est pas seulement le beau ou le mal ou le bien. C'est aussi la reconstitution de nous-mêmes.
Et puis, il y a aussi des gens qui parlent, hein, dans votre film Rétipane. En l'occurrence, il y a souvent, de façon récurrente, deux hommes qui racontent ce qu'ils ont vu dans les rizières, ces deux hommes. Et ça rejoint ce que vous dites souvent sur la façon que vous avez de faire des films. Vous dites que vous faites des films avec les gens et pas sur les gens, que c'est votre hypothèse morale. On vous retrouve dans 2 minutes, bien sûr, Rétipane. Il est 7h30 sur France Culture. On va laisser passer les titres de l'actualité. Le cinéaste Rétipane est avec nous ce matin à l'occasion de son invitation aux Journées internationales du film sur l'art à l'Auditorium du Louvre tout ce week-end avec projection de 4 de ses films, échanges, discussions, masterclass et j'en passe. Rétipane, vous parliez des jeunes, vous parliez de la transmission, vous parliez de la mémoire du génocide, ça fait 40 ans. Cette année, on a commémoré le 7 janvier dernier la chute du régime Khmer Rouge. 40 ans, ça fait quelque chose de particulier ou c'est juste une année de plus ?
C'est une année. Je pense que quand on fait la guerre, c'est très facile. Il faut vraiment faire attention quand on décide de bombarder quelque part. Demandez-vous bien comment on va faire la paix. Et la paix dans un pays qui a fait 1,7 million 100 000 morts, 2 millions de morts sur 7 ou 8 millions d'habitants. Ça fait un quart d'habitants qui sont morts de faim, d'exécution. Ben, il faut une ou deux générations, ou même voire trois, pour pouvoir, je dirais, pacifier un peu. Il faut tout réapprendre, hein, réapprendre à les liens, rétablir les liens sociaux, apprendre à être avec les autres, apprendre la solidarité, apprendre à aimer, sentir moins, je veux dire, sentir vivre. Parce que ce poids de deuil, ce poids de mort, viendra vous hanter quand tout va bien. Quand vous êtes dans un processus de lutte pour la survie, ça va, parce que vous ne voyez pas ça. Mais dès le moment où vous commencez à sortir, que vos enfants commencent à l'école, la famille commence à prendre forme, et là, je crois que le fantôme peut revenir.
Vous disiez, Rétipane, tout à l'heure que parfois, vos camarades, vos pères, vos amis, vos proches, vous, ou même des spectateurs que vous ne connaissez pas, mais vous engueulent en disant « Ah, encore !» Revenez encore sur le génocide. Vous ressentez ça quand même très fort, même là-bas, hein, quand vous allez au Cambodge, en particulier chez les jeunes, est-ce que la mémoire de ce qui s'est passé est présente ? Est-ce qu'on l'enseigne ? Est-ce qu'on l'apprend ? Est-ce que ça y est, les gens se parlent, ou est-ce qu'on en est de cette pacification dont vous parlez ?
On commence à en parler beaucoup mieux qu'avant. On enseigne mieux. Et le travail du tribunal international, tribunal mixte sur les Khmer Rouges, il est ce qu'il est, et le résultat. Mais il a fait quand même ils mettent sûr que, je veux dire, ils nous montrent ce que c'est.
En novembre dernier, les plus hauts, voilà. Les deux plus hauts dirigeants Khmer Rouges, voilà, encore en vie, Nguyen Chia, 92 ans, et Khieu Samphan, 87 ans, ont été condamnés par ce tribunal, ouais, parrainé par l'ONU, ouais, à la prison à vie.
Ouais. Alors, on est satisfait ou pas, c'est lent, c'est coup de chat, c'est vrai, mais je pense que c'est, voilà, je pense que c'est important. Mais les jeunes, maintenant, ils ont évolué aussi avec la technologie. Alors, ces jeunes-là, vous pouvez pas... Déjà, il faut que les gens de ma génération acceptent de témoigner. Mais quand ils témoignent, les jeunes n'y croient pas, parce que les nouvelles générations, non, ils ne croient que quand il y a image, quand il y a le son. On est dans l'image et le son. Donc, nous, ce qu'on fait, bah, nous avons créé une forme, un centre qui s'appelle le centre audiovisuel de Bopana, un centre de mémoire audiovisuelle. On ramasse tout, pas que seulement que les Khmer Rouges, mais on ramasse tout, les images et le son concernant le Cambodge. Et récemment, on a créé une application. On peut télécharger gratuitement, mais il y a l'image et le son et l'histoire. Et c'est étonnant parce que en un an, on a 40 000 téléchargements. C'est beaucoup pour un pays qui s'intéresse aux loisirs, ou qui une population jeune qui cherche plutôt autre chose, autre image, vous voyez, YouTube, etc. Mais là, ils téléchargent l'application, oui, pour comprendre mieux l'histoire.
Rétipane, j'ai quand même un article de La Croix daté du 17 janvier sous les yeux, qui est titré du 11 janvier, pardon, mes yeux voient mal. Au Cambodge, la culture sur surveillance et qui alerte sur le fait que les autorités ont interdit la diffusion de chansons pop qui donneraient une mauvaise image du pays. Vous ressentez ça, un renforcement du contrôle de la culture populaire ?
C'est fluctuant. Il y a le moment où on arrive à interdire une jeune fille parce qu'elle a une jupe trop courte. Moi, je suis contre ça. Je pense plus on censure, plus les gens vont trouver autre chose ailleurs. Il vaut mieux discuter avec eux. Il vaut mieux voir... trop enfermé dans un traditionnalisme un peu intégré, ce n'est pas bon. Accaparer une culture des autres sans vraiment digérer ce que c'est pas bon non plus. Donc il faut une éducation, il faut toute une éducation, il faut un espace culturel que nous n'avons pas, il faut ouvrir les musées, il faut ouvrir plus. On n'a pas, par exemple, toujours pas un musée, on est que des temples d'encore. On n'a pas un musée d'ethnographie ou de civilisation, tout ça. Est-ce qu'il nous manque à nos jeunesses?
On va se quitter, Rétipane, et on va se quitter avec un art qui vous est cher, que vous utilisez beaucoup dans vos films, qui est la musique.
Oui.
Vous avez choisi une chanson française, vous avez choisi « Ma môme » de Jean Ferrat.
Oui, parce que quand j'étais arrivé à Paris, en France, j'apprenais la langue et les chansons. Parce que Brassens, Brel ou Ferrat prononcent très bien le mot français. Donc j'apprends avec la mélodie, c'est encore mieux. Et à l'époque, j'habitais près de Créteil, vous voyez.
Allez, ma môme, Jean Ferrat.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise.
Merci beaucoup, Rétipane, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes invité jusqu'à lundi à l'Auditorium du Louvre pour des échanges, des projections et une masterclass. Tout le programme sera sur notre page des matins du samedi. Les tombeaux sans nom, présentés en compétition internationale au FIPADOC de Biarritz, sera projeté aujourd'hui à 11h45 à l'Auditorium Bellevue, diffusé sur Arte en mai. Merci et bon vent à ce film et à vous-même.